Mais ça, ce n'est pas un très bon calcul. Glorifier Dieu dans ce que je suis capable de faire. Et alors, notre réaction peut être de dire, mais ça, encore une fois, c'est les choses de la terre. Moi, ce qu'il faut, c'est que je connaisse la Bible par cœur. Mais non, pas du tout. Toute parole, toute écriture, nous dit 1 Timothée 3, est inspirée de Dieu et utile pour corriger, reprendre, exhorter, etc. Mais pour que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre, pour servir, pour faire des choses. Est-ce que mes mains glorifient Dieu? Dans tout ce que je fais, tout à l'heure, on va rentrer. Est-ce que je fais quelque chose de juste, quelque chose d'utile? Ça, c'est du prévert. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui me fait du bien, qui fait du bien à l'autre, qui construit quelque chose pour demain? Glorifier Dieu dans mon corps. Ce n'est peut-être pas un hasard anodin si l'armure du soldat dans Éphésiens 6, reprend les choses du corps. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on connaît la première pièce de l'armure? Si on ne la connaît pas, comment est-ce qu'on peut espérer être un soldat? Alors, tout le monde la connaît ici, donc je vais simplement rappeler que c'est le fait de ceindre les reins de la vérité. C'est-à-dire, en fait, la vérité, le fait de comprendre les choses, le fait d'être en stature ici. Dans mon corps, je suis sur mes jambes. Et moi qui fais beaucoup de tennis, en fait, il fallait être sur mes jambes. Mais quand on fait un sport de combat, quand on fait du ski, il faut bien être en stature. C'est exactement pareil. Glorifier Dieu dans mon corps, ça veut dire savoir avoir de l'équilibre, savoir. Et comment avoir de l'équilibre? Ceindre mes reins de la ceinture de la vérité. Parce qu'en fait, c'est la vérité qui me donne de comprendre ce que je suis, ce que j'ai à faire, qui sont les autres, etc. Ensuite, la deuxième pièce, c'est la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, en fait, dans la mesure où je fais ce que j'ai compris, je suis en stature parce que j'ai acquis, j'ai pratiqué la vérité, et je suis maintenant bien sur mes pattes, alors si je fais cette vérité, alors je suis juste. Je fais ce qui est juste. Si j'ai péché, je confesse et je reviens au Seigneur. Et c'est la cuirasse de la justice. C'est-à-dire que quand je ne suis pas juste, je suis vulnérable. Quand on est enrhumé, quand on a mal aux jambes, quand on a mal à la tête, pourquoi on est enrhumé? Pourquoi on a mal aux jambes? Pourquoi on a mal à la tête? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, en fait, pour que tout à coup cela nous arrive? Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que toute personne qui avait mal à la tête avait péché. Mais je dis, quand j'ai mal à la tête, alors je me pose la question. Est-ce que j'ai ceint la cuirasse de la justice? Est-ce que je me suis habillé de la cuirasse de la justice? Combien de fois, quand on a 15 ans, 20 ans, et même 40, 50 ans, 60 ans, on maudit son frère? Mais vous ne croyez pas que ça a un effet sur notre corps, comme on l'a vu dans les proverbes? Et puis après, il y a chausser les pieds de la préparation de l'évangile. Alors aller vers ma sœur, vers mon frère, vers mon voisin, vers la personne pour lui parler. Ça, c'est important. Donc, première chose, la stature. Deuxième chose, le fait de se protéger en pratiquant ce qui est juste. Troisième chose, le fait de marcher. Ensuite, quatrième chose, c'est le casque du salut, parce que qu'est-ce qui me donne la réussite? C'est que j'obéisse au commandement, c'est-à-dire au Seigneur. Le casque du salut. Cinquième chose, c'est le bouclier de la foi. La foi, c'est ce qui me permet d'éteindre les dards enflammés du méchant. La foi, c'est le fait de dire non. Pour moi, j'ai eu une conviction devant le Seigneur et je la mets en pratique. C'est ça la réussite. Si vous saviez combien de personnes souffrent du fait de ne pas savoir s'ils sont en réussite ou s'ils sont en échec. Mais réussir, c'est marcher par la foi. Ce qui a de la valeur, dit Galates 5, verset 6, c'est la foi opérante par l'amour, rendue agissante par l'amour, rendue complète par l'amour. C'est-à-dire, je tiens avec ma main mon bouclier de la foi. Je suis en réussite. Vivre corporellement, c'est-à-dire être bien conscient que moi je suis appelé à faire des choses. Alors là, c'est une analogie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut que je me protège, qu'il faut que je réfléchisse le casque du salut, qu'il faut que je me construise les reins saints de la vérité. Comment est-ce que je me protège? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je mange des légumes? Est-ce que je mange des fruits? Tout est lié là-dedans. Alors quand on mange que des pâtes, pendant 10 ans, après on tombe malade, on va voir le médecin, on dit « je ne sais pas ce qui se passe, pourtant j'ai prié, j'ai lu la Bible tous les jours ». Eh oui, et il y a quand même un problème de cohérence là. Peut-être parce que justement, on a dit « oui, mais il n'y a que ce qui est spirituel qui a de l'importance ». Alors qu'en fait, Dieu a vu que tout cela était très bon. On va passer au dernier point, qui est la résurrection. Et on va simplement lire au chapitre 15, quelques expressions. Pour les différents domaines, je crois que ce n'est pas la peine de marquer des applications pratiques. Pour le troisième point, donc les différents domaines, le point 4, pour le point 3, j'aimerais vous laisser un verset, je crois qu'il est dans 2 Chroniques, au chapitre à propos du roi Asa, 2 Chroniques 16, verset 12. La 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds, jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand. Et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. Hein, donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas rechercher les médecins. Et Luc était le médecin bien-aimé, on voit ça dans l'Épître aux Colossiens. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma relation avec le Seigneur quand je suis malade? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? La langue des sages est santé. David dit dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os ont dépéri. » Quand je ne confesse pas mon péché, c'est peut-être pas anormal que j'en ai plein le dos, que j'ai mal au dos, que je sois obligé d'aller chez le kiné. Je ne veux pas faire de concurrence déloyale à certains ici que je connais. Donc je crois que c'est important de toujours replacer les choses au niveau de la relation avec le Seigneur. Donc le langage du corps, la correspondance entre l'être intérieur et le corps. Point 3. Point 4, donc, différents domaines, Dieu m'appelle à vivre dans mon corps, à vivre, à être curieux, à agir, à produire, à fructifier, multiplier, à assujettir. Point 5, la résurrection, un point qui est, qu'on peut considérer peut-être comme la cerise sur le gâteau, mais qui est, me semble-t-il, très important. La résurrection est présentée comme un sujet dans 1 Corinthiens 15. Et dans 1 Corinthiens 15, 23, elle est montrée en trois rangs. Alors, on va voir ça. Donc, fin du 22, il est dit « Tous seront rendus vivants ». Verset 22, « Car comme dans l'Adam, tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang. » Et donc, il y a trois événements, si vous voulez, pour la résurrection. Premier événement, c'est donc les prémices ou le premier fruit, Christ. La résurrection de Jésus-Christ, la première manifestation de la résurrection. Il est dit « Ensuite, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. » Et là, on voit avec Apocalypse 20, je ne vais pas m'étendre, qu'il y a deux résurrections à la venue du Christ. La première qui aura lieu à l'enlèvement de l'Église, où les morts en Christ ressusciteront. Et la seconde qui aura lieu au retour de Christ sur la terre, où les martyrs de la grande tribulation ressusciteront pour régner 1000 ans avec le Christ. Et ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Christ, ne ressusciteront pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et ensuite, c'est la troisième résurrection, comme le dit 1 Corinthiens 15, 23, ensuite la fin. Et Apocalypse 20, on va lire juste ce petit verset, nous dit, Apocalypse 20, verset 4, « Les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image, ni qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans, et le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est ici la première résurrection. C'est-à-dire que c'est la résurrection des saints. C'est la résurrection des martyrs. Et donc ensuite, il y a la fin, verset 12 du chapitre 20, « Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. » Donc ils sont morts, mais ils se tiennent debout et ils ressuscitent pour le jugement. Et il est donc dit au verset 6, « Bienheureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. » La résurrection, donc deux mots en grec, « egairo » et « anastasis », le fait de se réveiller, « egairo »,« anastasis », »,« stasis » c'est la station, et « ana » c'est « à nouveau ». Donc je me tiens debout à nouveau. Et donc il y aura un moment où mon corps se tiendra de nouveau debout. Alors on dira, oui, mais ceux qui ont été incinérés, ceux qui ont été perdus en mer et qui ont été mangés par les petits poissons. Mais je crois que les découvertes des années 50-60 avec l'ADN, hein, avec les structures particulières de chaque individu, montrent que notre corps est unique et que ça ne sera pas un problème pour Dieu. On le voit dans Ézéchiel 37, comment est-ce que les corps se recomposent et comment est-ce que cette résurrection pourra avoir lieu. Donc au passage, pour moi, le problème de l'incinération ne se trouve pas dans le fait d'être réduit en cendres, mais plutôt dans quelqu'un qui éventuellement voudrait se faire incinérer pour rendre hommage à tel ou tel culte, à tel ou tel idole, à tel ou tel dieu. Le problème du don d'organes n'est pas tellement dans le fait de donner. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous ne signez pas un papier comme quoi vous ne voulez pas qu'on fasse de prélèvement d'organes, si vous avez un accident, s'il n'y a pas un refus de prélèvement d'organes, on peut vous prélever les organes pour justement que ces organes soient greffés à quelqu'un qui est vivant. Et je crois que le problème du don d'organes n'est pas un problème si en fait on considère bien que notre corps est dans les mains du Seigneur. Il pourrait être un problème si par exemple on voulait que notre corps survive à notre mort.